Salut Daniel, salut à toute l'équipe, c'est Marc de Lyon. Évidemment très touché par le sujet d'aujourd'hui, par l'expulsion de cette vieille dame, histoire qui heureusement finit bien. Cette vieille dame qui pourrait être ma grand-mère, la grand-mère de plein de gens, je pense, qui écoutaient, la mère, la sœur, la tante, voilà, c'est nous, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais qu'elle était admirable dans sa résistance et dans sa dans son refus. Je trouve qu'il y a un moment bouleversant dans le sujet où elle, de manière, elle dit pas juste non, je suis pas d'accord. On sent que c'est vraiment non absolu. Et donc voilà, c'est cette force d'arriver à dire non. Et ça m'a fait penser à quelque chose par rapport au préfet. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être préfet. Il y a les préfets de la trempe de Papon, qui sont préfets, alors lui a double titre, préfet pendant la guerre pour rafler les Juifs, préfet dans les années 60 pour ratonner. Ça c'est voilà les préfets à la mode Papon, puis il y a les préfets à la mode Jean Moulin qui disent non et qui disent je suis préfet et je dis non, je désobéis. Et on sent que le préfet là, il est dans l'histoire de cette vieille dame, il penche, il sait pas trop, et puis finalement il bascule quand même du côté de Jean Moulin, alors d'un tout petit Jean Moulin évidemment, mais c'est quand même, je trouve, la bonne nouvelle de ce sujet. Voilà, ben salut à tous et bravo pour vos émissions.
Ouais, salut, là, c'est pour réagir à ce qui se passe à Toulon, là-bas. Moi, j'ai un pan de ma famille, là-bas, ma grand-mère aussi, ma grand-mère, quoi, entre autres, dans le centre de Toulon. Oh, elle est pas à plaindre, hein, derrière sa porte blindée, ma grand-mère pied noir. C'est pour ça que je voulais dire, je trouvais ça quand même assez dingue que tu fasses des émissions sur justement les sombres heures de 61, 62, et que juste derrière, tu parles de cette dame à Toulon, une ville où bah, y a beaucoup de pieds noirs, quoi. Hein. pieds noirs, juifs pieds noirs corses, que ce soit d'Algérie ou d'ailleurs. Et puis bah, notamment, tu vois, en face de chez ma grand-mère, bah, on a construit, il y a plusieurs années de ça maintenant, la FNAC. Carrefour, on a détruit tout le quartier où j'allais petite avec ma grand-mère acheter les pâtisseries arabes, les beignets. C'était un quartier super vivant, j'adore Toulon. Hein. C'est vraiment un endroit particulier. Et mais bon, la pauvre dame là, je la plains, hein, c'est pas drôle ou quoi, mais comme tu disais, bah voilà, hein, il y a aussi les papilles arabes qui ont bossé là et qui sont chez eux aussi, quoi. Bah ouais, et puis là, comme tu dis, bah les médias, bah ça va pas suivre là-dessus évidemment, quoi. Mais j'aimerais bien savoir quand même c'est qui là les quatre acheteurs immobiliers là, les est-ce que Toulon a tous les environs là, bah c'est quelque chose là. C'est la mafia, quoi. Tous ces noms qui finissent en i et en o et en a. Et oui.
Alors bonjour Daniel et toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Voilà, à la suite de l'émission que je viens d'entendre ce soir, la rage m'a pris, j'ai pris mon plus beau porte-plume et j'ai écrit au maire de Carqueiranne, dont je ne sais pas le nom, j'en ai rien à foutre d'ailleurs de son nom. Alors voilà, monsieur le maire, cette petite lettre pour vous remercier de votre humanité qui s'exprime en toute sincérité lorsque vous dites préférer payer une amende plutôt que de construire des logements sociaux sur votre commune. Merci aussi de votre soutien aux 15 travailleurs agricoles qui vont être expulsés et qui vivent comme des nababs dans les grandes largeurs sur une surface totale de 56 mètres carrés dans votre commune, 3 mètres carrés 76 par personne, c'est l'Elysée. Merci encore, monsieur le maire, dans toutes les actions du même genre, entre parenthèses, humain, que vous serez en mesure de prendre pendant votre mandat. Voilà, donc j'ai mis mon adresse bien en haut de la page, là, sur la gauche, et j'ai envoyé ça, et je vais de suite mettre ça dans la boîte aux lettres. Merci à vous tous d'exister, l'équipe de Daniel Mermet, et un grand bravo pour votre travail de tous les jours. Salut, à bientôt.
Pauvres gens misérables. Peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons, des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur quand vous laissez seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même? C'était le discours de la servitude volontaire de, enfin une partie du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'était il y a quasiment 500 ans. Voilà. C'est bien d'actualité, il me semble. C'était Henri de Bordeaux. Merci et bonne journée.
Bonjour, c'est Rowena du bateau ivre, un repère sur l'île de Groix. C'est pour dire que ça continue. C'est là, hier soir, on était 17. Les gens qui réfléchissent bien ensemble, qui ça commence à avoir un petite idée que ça peut être agissant, cette petite groupe-là, sans être militant, mais une réflexion qui vient petit à petit là-dedans. On est bien ensemble et puis ça va continuer. Voilà. Bon courage. Salut.
Voilà, écho des repères, d'un repère de là-bas si j'y suis. De nouveaux repères s'ouvrent chaque jour. Les repères des amis de l'émission, là-bas si j'y suis, et de France Inter aussi, qui décident d'un endroit, d'un bistrot, où ils se retrouvent une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. Et aujourd'hui, il y en a deux nouveaux. Il y en a un dans un petit endroit qui s'appelle Tonguedec. Tonguedec, dans les Côtes d'Armor, sur la route de Bullien. C'est le café de Bretagne Tijano, et on s'y retrouvera entre amis d'Abbas, si j'y suis, à partir, alors le jeudi 27 octobre à 19h pour le premier coup, et puis un autre qui s'ouvre à Lyon, à la Croix-Rousse, ça s'appelle la République des Platanes, le bistrot, c'est 10 places du lieutenant Morel, donc dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, et ce sera tous les jeudis de 18h à 21h, donc voilà, ça marchera à partir de jeudi prochain à 18h. Beaucoup de messages, vous avez entendu sur l'émission d'hier, sur le reportage d'hier, sur l'histoire de cette vieille dame de 80 ans qui avait été expulsée, puis finalement, suite à un touch de pression et de retournement de situation, a pu retrouver sa maison. Puis merci mille fois à cet auditeur qui a lu ce texte que nous devrions dire tous les jours. C'est le discours de la servitude volontaire, effectivement, de la Boétie. Gardez-le un peu en mémoire parce que ça peut éclairer notre balade d'aujourd'hui. Balade, c'est beaucoup dire. C'est pas une balade du tout. C'est un reportage très difficile. Je conseille d'ailleurs aux auditeurs sensibles de se tenir à l'écart du transistor pour aujourd'hui, aux jeunes, de faire très attention à ce qu'ils vont écouter, puisque nous allons dans un ghetto de banlieue. C'est un reportage très difficile qu'a accompli là notre ami Guy Vanctil. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Sylvie Dubard. Bah écoute, j'ai hâte d'apprendre officiellement la nouvelle par les infos de France Inter, ce qui confirme les emails que j'avais reçus hier soir à la maison. Effectivement, des faucheurs d'OGM ont été arrêtés chez eux au petit matin, comme des grands bandits. Je suis assez en colère parce que les derniers fauchages ont eu lieu cet été. Donc depuis le mois d'août, qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi? Et en même temps, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont foutu les gendarmes, hein, évidemment. Et en même temps, à chaque fois, nous sommes toujours volontaires, hein, donc ils ont qu'à nous arrêter au moment où ça se passe. C'est quoi cette idée de venir nous chercher au petit matin devant notre famille, deux mois après les faits, alors que nous revendiquons d'être entendus par la justice? C'est vraiment prendre les gens pour des moins que rien. Voilà, écoute Daniel, je te souhaite bonne route et puis je te tiens au courant. Allez, ciao.
Ouais Daniel, je voulais juste te tenir un petit peu d'avoir une causette ou
ami.
Chasse à cour et golf.
Chasse à cour, mais c'est très complémentaire. Parce que la chasse à cour, c'est l'hiver et le golf, c'est plutôt l'été. Chasse à cour et le golf.
Et mais... à part ça, ici, vous avez d'autres activités?
Ben non, pas forcément. Mais si je fais le tournoi de Neuilly, de golf. Autrefois, nous avions nos clochards. Nous avions Alfred, qui habitait, je ne sais pas où, enfin, je ne sais pas très bien où, mais enfin, qui était aimé, habillé, nourri par les gens du quartier, qui promenait sa poussette. C'était un personnage. Après, on en a eu un autre qui, malheureusement, a été un jour... ses copains l'ont arrosé d'essence et ont mis le feu. Voilà. On va peut-être avaler ça.
C'est quoi, c'est là, délicieux?
C'est du... des gambas aux trois champignons, avec du riz. Voilà. C'est tout.
C'est tout.
Voilà.
Bon appétit.
Oui, je pense qu'on est assez bien gardé. On ne voit pas tout. Quand Nicolas Sarkozy était là, il se montrait beaucoup. Il était là la nuit, il faisait des rondes, etc.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis avec Yvan Gtil, le golf, c'est plutôt l'été. Bienvenue à Sarkoland.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, à l'oreille, on pourrait être à peu près n'importe où. C'est le bruit de circulation. On est de l'autre côté du périphérique, c'est la banlieue. Par contre, si on ouvre les yeux, déjà on distingue une petite fontaine derrière nous et une autre fontaine devant nous, puisqu'on est sur un grand axe avec vous, Monique et Michel Le Pinson, à Neuilly. On voit bien que c'est pas une banlieue comme les autres, tout le monde connaît le nom de Neuilly, mais comment on pourrait qualifier un peu que c'est quand même l'une des villes les plus riches de France?
Oui, c'est une des villes les plus riches de France et vous avez employé le terme de banlieue. Est-ce que c'est une commune de banlieue? Est-ce que c'est le 21e arrondissement de Paris? Je pencherais personnellement, comme sociologue, pour le 21e arrondissement de Paris. C'est pas n'importe quel axe sur lequel on est, c'est l'axe du pouvoir. Un axe qui naît dans les frondaisons du Jardin des Tuileries, qui passe par l'Arc de Triomphe, l'avenue de la Grande Armée, et puis qui traverse tout Neuilly.
Et donc Neuilly était le prolongement naturel des beaux quartiers, des quartiers riches de Paris. C'est le point de départ de nos travaux sur la grande bourgeoisie, parce que nous avons considéré qu'il n'était pas normal de laisser hors de l'investigation sociologique les catégories les plus élevées. Nous avons commencé par un travail sur les beaux quartiers, et essayer de comprendre les processus qui conduisaient à un entre-soi tout à fait extraordinaire. Vous avez un espace, l'ouest de Paris, et
là on est plein ouest en ce moment, là.
Et Neuilly qui le prolonge, où se concentrent toutes les grandes richesses qui habitent la région parisienne.
Voilà. On commence la balade dans les beaux quartiers, le plus beau quartier des beaux quartiers, c'est-à-dire Neuilly-sur-Seine. Et ceux qui nous conduisent dans ce quartier, c'est Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, deux éminents sociologues qui, depuis bien longtemps, consacrent leur recherche et leurs travaux à étudier cette société, ce monde de la haute bourgeoisie, la grande bourgeoisie, les grandes fortunes. Et là, on va se balader avec eux dans Neuilly, avec Yves, bien sûr. Il y a, dès qu'on dit Neuilly, c'est tout de suite les grandes fortunes, les très grandes fortunes. C'est dans cette bonne ville de Neuilly qu'on croise les plus forts, la plus forte proportion de personnes assujetties à l'impôt sur la fortune. Aucun appartement ne se vend en dessous de 80 000 francs, 8 000 francs 80 000 francs le mètre carré, oui, je m'y retrouve, 80 000 euros le mètre carré. Enfin, des fortunes. On s'en mêlera beaucoup les crayons dans les chiffres, tellement on est hors de proportion. Mais c'est pas la seule chose. C'est que, évidemment, il s'agit d'une société, il s'agit d'un monde social, avec ses cohérences, avec ses rites, avec ses mythologies, évidemment, aussi. Et ce que, depuis déjà pas mal de temps, ces deux sociologues, et d'autres d'ailleurs, ont pu mettre en lumière, c'est la cohérence et c'est l'entre-soi. Comment on est, c'est les mêmes avec les mêmes. Et pas les autres. Et on le verra notamment à travers les questions sur le logement social, qui est ici un problème majeur. C'est peut-être bien le seul en apparence, tant il est vrai que luxe, calme et sécurité sans doute, mais un monde qui se présente sous des dehors charmants, souriants, apaisés, d'ailleurs un monde qui est à la fois ouvert et fermé, où les autres, comme par magie, ne vont pas. Et c'est la raison pour laquelle nous y allons, nous irons ainsi de découverte en découverte. À Neuilly, le golf, c'est plutôt l'été. Bienvenue à Sarcolande.
Le rallye Neuilly.
Mon ami, sais-tu ce que c'est qu'un rallye? Non, eh bien, je veux te l'expliquer en 2 secondes ne bouge pas. Oh. Ce sont deux sortes de fêtes où se pressent les élégantes et les gens chics, où se presse tout Paris. On y croise des bandits, des princes, des oh, mais que fait-on dans ce genre de réunion? Oh, l'ami, laisse-moi te l'expliquer, ce ne sera pas long. Oh, c'est très ennuyeux, on n'y joue pas de guitare ou à l'entrepeu.
Commençons cette balade, cette petite balade sociologique que vous nous proposez dans Neuilly, pour prendre un titre d'un de vos livres, Voyage en grande bourgeoisie.
Donc on vous propose de faire le quartier Saint-James, qui se trouve au sud de Neuilly, qui est donc en bordure du bois de Boulogne. Donc comme aujourd'hui il fait beau, ben, comme ça les auditeurs sentiront un peu le soleil et l'automne frémissant. Et on va commencer cette promenade par l'avenue de Madrid.
Ici, c'est que des gens qui ont beaucoup de moyens qui peuvent venir s'installer.
Ah ben, c'est-à-dire qu'ici, vous avez des riches et puis vous avez des très riches. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans l'univers de la richesse, on est face à un puits sans fond. Il y a une dispersion absolument extraordinaire. Alors, par exemple, si je pense uniquement aux fortunes professionnelles, là, les challenges chaque année fait des palmarès des fortunes professionnelles, ben vous avez, je crois que c'est 340 fois entre la première et la 500e. Donc la dispersion est énorme.
Parce que le moins riche des plus riches est 340 fois moins riche que le plus riche des plus riches.
Alors si vous faites la comparaison avec le monde des salariés, vous calculez, vous prenez un SMIC à 1000 euros, eh ben 340 000 euros par mois, on voit bien qu'on est sur une autre planète. Il n'y a pas de dispersion comme ça dans le monde des salariés. On le verra au fur et à mesure de la promenade, puisque là, on marche des moins riches aux très riches. Puisqu'on, là, vous avez vu les restaurants, ben, qu'est-ce qu'on avait ? Le bistrot romain, la criée. Bon, c'est sympa hein, de manger. Vous auriez pu nous inviter là, on aurait été bien. Mais, et on va aller jusque chez Madame Bettencourt, qui a quand même été la première fortune de France de 1985 à 2004, pour être détrônée cette année par Monsieur Bernard Arnault.
Eh oui, c'est ainsi que ça se passe à Neuilly. Alors, on a parlé de Madame Bettencourt, mais il y a nombre de célébrités qui habitent à Neuilly, PPDA, Chantal Goya, Richard Anconina, Jean Reno, Martin Bouygues, Monsieur Lindsay Owen Jones, Dominique Strauss-Kahn, etc. Tout un tas de personnalités. Pour les plus connus, évidemment, mais la majorité sont des gens, évidemment, très discrets, qui vivent dans cet endroit tout à fait privilégié, où une concierge, on dit pas une concierge, on dit la dame qui s'occupe de l'immeuble, et où quand même on est assez bien entouré. On pourrait parler d'une principauté, d'ailleurs, de Neuilly-sur-Seine, avec ses 54 chirurgiens dentistes, ses 36 instituts de beauté, 8 cliniques et hôpitaux, 6 maisons de retraite, 41 avocats, 5 boutiques d'articles pour chiens. Tout ne sera pas malheureux si vous vous installez à Neuilly, une trentaine d'agences de voyage et ce qu'il faut comme traiteur. Et oui, on n'a pas toujours le temps. Et puis vous savez, les gens de maison aujourd'hui, alors il y a 28 traiteurs à Neuilly. Donc on est à chaque moment, on peut être livré. Enfin, la vie y est très agréable. Très agréable, et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pas tous les jours le populisme, le misérabilisme dans la Bastille.
On a fait 200 mètres depuis l'avenue Charles de Gaulle à peu près, et on arrive tout de suite dans un univers beaucoup plus bas, avec une végétation beaucoup plus abondante, avec des jardins. Et ici s'ouvre la Villa Madrid, c'est-à-dire un ensemble d'hôtels particuliers avec de grands jardins, qui est l'un des endroits les plus gardés de Neuilly. On va essayer d'y entrer, mais ce n'est pas du tout sûr que ça marche.
Ah oui, parce que là, vous faites bien de me le dire, parce que moi, en passant devant, je vois un mur avec un signe sans interdit. Ça ne saute pas aux yeux.
Nous allons rentrer discrètement dans la Villa Madrid, qui est interdite à toute personne étrangère.
Là, vous voulez dire qu'en fait, faut pas le dire, mais on est en infraction, là. On n'a pas le droit de se balader, là.
Non, c'est totalement privé. En même temps, c'est vrai que nous, on fait notre boulot de chercheurs. C'est-à-dire que on parle tout le temps de ghetto quand on parle du quartier chinois, quand on parle de la Goutte d'Or. Ben non, c'est des quartiers qui sont finalement relativement mélangés, assez fluides au niveau de la mobilité, de la communication. Et finalement, s'il y a des ghettos à Paris ou dans la région parisienne, eh bien c'est à l'ouest qu'il faut aller les chercher. Et là, nous sommes dans un de ceux-là.
Oui, bon, la voiture qui est devant nous, elle tente que la grille s'ouvre pour pouvoir sortir de sa maison grillagée précédemment. Donc c'est déjà deux grilles pour pouvoir être dans le monde extérieur, sachant que le monde extérieur autour, c'est Neuilly, donc c'est pas un environnement non plus...
Très nocif.
Alors on avance, l'air naturel, ne doutant de rien. Je vois, moi, il y a des caméras de surveillance devant les portes. Et c'est vrai qu'on est dans une allée. Alors là, maintenant, ça y est, on est dans le calme, fini la circulation. Et là, à droite, un immeuble en briques, style années 20-30.
On sent, les fenêtres sont ouvertes, il y a des fleurs, on sent des belles pièces de réception, où il doit faire bon boire le champagne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi la diversité architecturale. Chacun a choisi son architecte.
Ce sont des maisons d'architectes, c'est-à-dire chacun a la signature d'un architecte particulier.
C'est vrai, entre celle en briques rouges et celle en pierre de taille, et celle qui est plus style art nouveau.
Oui, puis regardez toute la décoration architecturale, c'est-à-dire qu'on est très loin des immeubles de rapport du quartier des Épinettes, là où on a nos bureaux du CNRS, où il n'y a pas une fioriture de trop.
C'est fonctionnel.
Tout Tandis que là, tout signifie la place que vous occupez dans la société. Tout est ample, il y a de l'espace, et le pouvoir social, c'est avant tout un pouvoir sur l'espace qui met au fond les gens que vous voulez éviter à distance. Et en même temps, c'est vrai que ça a été la première découverte qu'on a faite, Michel et moi, ici. On parlait toujours de ségrégation. Et en réalité, quand on est arrivé dans les beaux quartiers, on a compris que c'était avant tout un processus d'agrégation. Être entre soi, c'est vraiment l'amour de son semblable. Et je pense que ce sont des gens qui auraient une très, très grande difficulté, contrairement à nous, les membres des classes moyennes intellectuelles, à vivre dans le quotidien avec des gens qui auraient d'autres modes de vie que le leur.
Du duc d'Orléans
à Neuilly.
Voilà. Ah. Il y a une manifestation PCF 93. Vous avez un autocollant PCF
92. Donc il n'y a pas que le 93. On est ici chez nous et on vient manifester et donner notre avis sur la politique d'un certain nombre de maires sur le logement. Il s'agit pour les villes de proposer et de construire un nombre de logements sociaux qui, en termes de pourcentage, c'est 20%.
Qui est la loi SRU.
Mmh. SRU, c'est la loi sur le renouvellement urbain.
Tout à fait.
Si les villes ne satisfont pas à cette obligation, elles ont une pénalité financière.
Par exemple, la ville de Neuilly, par exemple, a seulement à peine 3% de logements sociaux. Donc, si vous voulez, elle paye une pénalité, l'équivalent de 150 euros pour un logement en moins manquant, voilà, par rapport aux 20%.
Donc, Nicolas Sarkozy
préfère payer que d'avoir des logements sociaux dans sa ville.
Sur sa ville, voilà. Parce que d'une part, c'est beaucoup plus rentable, je dirais, de permettre à des sociétés privées, bureaux et autres, d'occuper et de construire, et d'autre part, c'est en participant à un apartheid social, je dirais, donner satisfaction à des prétextes les plus lamentables au regard de la mixité, etc.
Là, parce que par exemple, ici à Neuilly, il y a 550 demandeurs de logements sociaux. Même ses habitants, il ne peut pas les satisfaire en logements sociaux.
Alors, nous, on est de Gennevilliers, par exemple, nous, on a presque 60% de logements sociaux.
Alors voilà, on est tombé sur une manifestation, un hasard extraordinaire. À Neuilly, voilà que le PCF manifeste pour des logements sociaux, pour faire respecter cette loi, la loi SRU, la loi solidarité et de renouvellement urbain qui veut que les villes construisent 20% de logements sociaux. Or, on vient de nous le dire, à Neuilly, on préfère payer les amendes et garder seulement 3% de logements sociaux. Ça, ce qui évidemment illustre tout de suite ce que vient nous dire Monique Pinson-Charlot sur, tout simplement, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. On reste entre soi. La société neuillienne, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, est une des sociétés, et même la seule aujourd'hui qui soit organisée avec des réseaux de solidarité, souvent familiale, ce qui lui vaut, eh bien, sa cohésion et sa réussite, ne l'oublions pas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais lorsque certains candidats à venir à la présidence de la République nous parlent de mixité sociale, on peut doucement rigoler.
Cinquième point, quand on aborde cette question du logement, on s'aperçoit qu'il y a des villes qui jouent leur rôle et d'autres qui ne le jouent pas. Pour Neuilly-sur-Seine, Saint-Maur, le Raincy, 171 villes ségrégatives hors la loi qui sont aujourd'hui en dessous des 20% de logements sociaux qui normalement devraient être le seuil en matière de droit au logement pour tous en Île-de-France.
Bonjour monsieur.
Vous êtes un militant communiste ?
Comment ?
Vous êtes un militant communiste ?
Ah non, un adversaire, forcené même.
Parce que c'est quoi votre étiquette, vous ?
UMP.
UMP, tendance Chirac ou Sarkozy ?
Sarkozy. parce qu'il n'y a pas la langue de bois.
Vous avez compris ce qui se passait là? C'est une manifestation?
Non, j'ai pas compris, je viens d'arriver.
Ces militants communistes des Hauts-de-Seine sont là en train de faire une action pour exiger l'application de la loi solidarité renouvellement urbain,
oui,
qui prévoit un taux de 20% de logements sociaux.
Oui, c'est pas mal ça. Seulement, il faudrait qu'ils commencent par ne pas se suicider eux-mêmes, et que quand une compagnie de navigation comme la compagnie de navigation Corse, SNSM, se met en grève en perpétuité, il est évident qu'on arrive à la catastrophe. Quand les agents de la SNCF se mettent en grève dès qu'on veut modifier quoi que ce soit pour rentabiliser quelque chose, ils contribuent à la décadence de tout notre système ferroviaire, de tout notre système économique, et toutes ces économies qu'on peut faire, ils les torpillent et contribuent à accélérer encore la décadence de notre pays.
Moi, ce que je vous demandais, c'est est-ce que vous trouvez ça gênant qu'il n'y ait pas de HLM ici à Neuilly, qu'il y ait moins de 3%?
Et comment voulez-vous faire des HLM avec le prix du terrain? Vous ne pouvez pas envisager faire des HLM avec un terrain qui vaut trois fois le prix dans une banlieue un peu plus éloignée? Il n'y a pas un terrain disponible ici à Neuilly. Comment voulez-vous, vous n'allez pas foutre en l'air tous les immeubles qui sont là pour mettre des HLM?
En plus, ici, c'est des hôtels particuliers.
Il n'y a plus d'hôtels particuliers à Neuilly. Il n'y en a plus, on les compte sur le bout des doigts. Comment voulez-vous mettre des logements sociaux qui sont indispensables? Tout le monde le reconnaît. Mais trouver les moyens financiers. Ce n'est pas Sarkozy qui fera sortir comme un lapin d'un chapeau des terrains disponibles pour construire des immeubles. On en a fait, à Sainte-Anne, l'avenue du Roule. Dès qu'on a eu un terrain disponible, on l'a fait, mais il n'y a pas de terrain disponible. C'est utopique de raconter
ça. Pour vous, si la mairie l'a pas fait, si la mairie Neuilly ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne pouvait pas.
Parce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas trouver de terrain. C'est pas du tout une volonté de lutter contre cette loi.
Mais est-ce que c'est pas aussi une manière de tenir à l'écart une population?
Absolument pas. C'est une loi de l'offre et la demande. C'est une loi universelle sur laquelle vous ne pouvez pas lutter. Quand il y a quelque chose qui est rare, il est évident que c'est cher.
Parce qu'il y a des gens qui disent, ben voilà, c'est un ghetto, le ghetto du Gotha.
Il y a une forte proportion de gens riches. Hein. Il est exact que c'est dommage que les professeurs des écoles ne puissent pas se loger à Neuilly et soient obligés d'aller habiter en banlieue. Mais ça, vous n'y pouvez rien, on n'y pourra rien.
Même Sarkozy?
Même Sarkozy ou qui que ce soit, même si c'est madame, comment elle s'appelle, Marie-Georges Buffet, fera ce qu'elle voudra, elle ne pourra pas arriver à trouver les moyens financiers pour rendre Neuilly habitable à des SDF ou à des gens qui sont au SMIC.
On en voit souvent des communistes manifester dans Neuilly?
Non. Ça m'amuse parce que comme tout mouvement socialiste, il y a une partie utopique qui est pire que le réalisme parce que ça fait rêver les gens sans possibilité de réaliser leur rêve.
Ouais. Et là, le rêve d'avoir une mixité sociale à Neuilly, pour vous, c'est un rêve inaccessible?
C'est un rêve qui sera très difficile à réaliser.
Je vous laisse écouter la fin du discours. Je voyais là, vous regardez la manifestation des communistes.
Ouais, je regarde, ouais. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est pour le droit au logement?
Ouais, c'est pour qu'il y ait plus de HLM qui soient construits à Neuilly et dans les autres villes qui ont moins de 20%. Il se trouve qu'à Neuilly, il y a 3% de HLM.
Ah, d'accord, ouais, c'est vrai, c'est ce qui paraît. Ouais, mais vous croyez que ça a passé?
Bah, la loi, elle est votée. Mais simplement, ils ne l'appliquent pas. Ils préfèrent payer une amende plutôt que de construire.
Ah, ouais, c'est sûr, ouais, c'est marrant. C'est compréhensible ici.
Vous êtes Neuillien?
Non, moi je travaille sur Neuilly, mais je suis du Nord. Moi je suis gardien d'immeuble.
Gardien d'immeuble dans un de ces beaux immeubles là qu'on voit derrière?
Ouais, j'ai mon logement, Forction.
Ouais, c'est ça, c'est une loge.
Ouais. Il y a des riches que je connais personnellement, ils sont sympathiques, ça dit pas, il faut pas me mettre tout le monde dans le même sac. Moi je connais des gens riches qui sont très bien avec les ouvriers. Hein.
Ouais.
Non, il faut pas me mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des riches qui sont un peu spéciales, mais il y a des riches qui sont sympas. Moi j'en connais franchement. Il faut pas me mettre tout le monde dans le même sac, c'est le problème. Je peux aller partout, Michel.
Bonjour madame, vous allez à la réunion des militants communistes?
J'ai pas le temps, je travaille. Là, on était en train de faire la causette avec une amie que j'avais longtemps que j'avais pas vue. Et ouais, mais j'ai pas le temps, faut que j'aille faire le boulot. Hein. Ouais. Mon patron il me paye pas rien faire.
C'est quoi votre boulot?
Je suis femme de ménage.
Et vous?
Moi aussi.
Ah, vous êtes deux femmes de ménage neuilliennes?
Je travaille pour monsieur Sulizer.
Paulo Sulizer?
Non, pas Paulo, hein, son neveu. Alors et voilà quoi. Ça fait 9 ans, bientôt 9 ans que je suis chez eux, que je suis sur Neuilly parce que j'habite à Levallois, moi.
Ah bon, vous n'habitez pas à Neuilly?
Non. Mon maire, c'est M. Belkany.
Mmh. On remarque que le Vanois, c'est notre banlieue chic aussi.
Oui, mais où c'est que je suis, c'est un peu cher où c'est que je suis. Hein.
Ah ouais.
Alors c'est pour ça que je disais, moi aussi je voudrais bien avoir un appartement, mais il n'y en a pas, hein. Ça fait plus de 5 ans que j'attends.
Vous êtes sur la liste de demandeurs d'HLM ?
Oui, parce que là je suis dans un studio, je paye 689 €. Oui, j'ai un petit studio quoi. Mais je serais dans un appartement, dans un HLM, je paierais beaucoup moins cher. Hein.
Et on n'en trouve pas ?
Monsieur le maire, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi.
Voilà. Ah, vous êtes allé voir Balkany ?
Oui, j'avais été voir Balkany et je faisais partie d'une association pour eux, vous voyez ?
De soutien ?
De soutien.
Vous aviez aidé à sa campagne de réélection ?
Oui. Et bien, depuis ça, je me suis retirée. J'ai dit, ben, puisqu'il ne peut rien faire pour moi, ben, moi, je ne peux rien faire pour eux. Alors, du coup, j'ai voulu tout arrêter, quoi.
Mais vous avez espéré que si vous les souteniez, vous auriez...
Que j'aurais eu un appartement, mais non, parce qu'il m'avait écrit, j'ai toujours la lettre, en disant qu'il ne pouvait rien faire pour moi.
Et vous, vous habitez à Neuilly, madame ?
Levallois.
À Levallois aussi ?
Oui.
Mais est-ce qu'il y a des gens pas riches qui habitent à Neuilly ?
Ça, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup des riches.
Les gens pas riches ici, je ne pense pas. Hein. C'est tous des riches. Hein. Ben écoutez, moi je suis pour toi, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, ça dépend des gens.
On se croise pas, on se croise pas en fait.
Oui, ben, ils disent même pas bonjour hein, du tout, hein, ils me regardent même pas. Hein. Hein. Ben disons, moi j'aime pas tellement Neuilly. Je préfère Levallois.
Moi aussi, je préfère Levallois.
Ah, ouais. Je préfère mille fois Levallois. C'est plus vivant Levallois. Ouais. Puis il y a beaucoup plus de choses. Tandis que là, à Neuilly, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez rien, les épiceries sont loin. Puis j'aime pas tellement. Il y a beaucoup d'art, tout ça, on dirait qu'on est dans les champs, dans les bois.
Bon, bah, bonne chance pour votre logement social,
mais
en tout cas.
Mais je pense que j'aurai rien.
Et du coup, mais vous m'avez dit Balkany, vous avez fait un croix dessus, et Sarkozy, alors ?
Sarkozy, ben, je le connais pas trop, hein, Sarkozy. Hein.
Ouais.
Ben, il fait pas mal de choses, hein, quand même. Hein. Hein. Mais bon, je pourrais peut-être aller le voir, peut-être il me donnera un appartement. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser.
Ouais, vous y retournez bosser ?
Eh oui, il faut.
C'est quoi votre prénom ?
Monique.
Monique et vous ?
Marie-Lou.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée, merci.
Bon, bah écoute, bah, à la prochaine.
J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Et qu'est-ce que je peux dire, j'ai rien à chanter, rien qui puisse servir et rien à exploiter. Si seulement j'étais noir, juif, arabe, portugais, non, je suis là, rose et frais, bien français, la tuile. Et j'ai beau chercher partout, faire le tour des amis, des copains éloignés. Chantal, des Jean-Charles, des Arnaud, des Benoît, des Solange, pas d'Abdoul, pas d'Ahmed. Ah, y'en a qui ont du bol, qui se font tabasser, privés d'identité, inculpés, expulsés, ça c'est des bons sujets. Mais moi j'ai rien à chanter, j'ai vécu sans histoire. Et y'a toujours eu des femmes de ménage à la maison.
Le rallye Neuilly.
Vous voulez terminer au milieu, là ?
Ah, c'est ça, un repas modeste.
Ah non, c'est rien, non, mais je vous assure, c'est...
Que je vois que les assiettes sont particulièrement soignées.
C'est comme tous les jours, mais je pense que c'est pas grave. Pardon, non ? Je sais pas, puis on va mettre un peu de soleil artificiel, parce que c'est tellement triste.
On met les petites bougies, là.
Ouais, j'adore les bougies aussi. Et je trouve que quand il n'y a pas de soleil, c'est... On aurait pu déjeuner dehors, c'est dommage. Que j'ai fait tout l'été, d'ailleurs.
Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une cour devant,
ouais.
Une cour sur les côtés, ouais. Boisée, il y a du bambou, là.
Oui, alors j'avais de beaux arbres, malheureusement. C'est une race d'arbres qui s'appelle des vernis du Japon. Et ça fait des feuilles partout, et ça fait des racines, un peu comme des bambous. Et ça passait chez les voisins. Alors ça ressortait dans les murs, enfin c'était horrible. Voilà. Donc j'ai été obligée de les abattre, j'avais de très beaux arbres. Bon, tout ça n'est pas grave. Je suis vraiment au milieu d'une petite île, au milieu des immeubles.
Comme une espèce d'hôtel particulier,
oui.
Caché derrière les immeubles.
Exactement. Mais il y en a beaucoup à Paris. Quand vous allez rue du Bac, tout ça, c'est la même chose. Et en plus, eux, ils ont la vue sur les petites bonnes sœurs. Là, c'est fantastique.
Sur les petites bonnes sœurs.
Vous savez, sur le couvent de je sais pas quoi, là, c'est magnifique. Mmh. Bon, allez, on va s'asseoir.
Oui.
Karen, allez en route.
Alors, dans le salon, il y a la musique qui passe doucement. On s'installe. Il y a des tableaux de chasse à cour.
Oui, je chasse à cour, voilà.
Vous faites quoi dans la chasse à cour, vous?
Je suis bouton à l'équipage de Bonnel à Rambouillet. Donc, je suis. Donc, nous sommes dans rouge. Et en chasse du 15 septembre au 30 mars. Ça occupe quand même deux fois par semaine. Deux fois par semaine. On n'est pas forcément obligé d'y aller, mais enfin, quand on est passionné, on essaie d'y aller quand même. On emporte son gilet, sa cravate et une redingote noire et on va chasser partout. Si vous trouver un cheval, quoi.
Et je vois votre pull aussi, c'est l'Open de France.
Non, ça c'est golf. J'ai acheté ça, je sais pas où, parce que j'ai là aussi une autre passion, c'est le golf, vous voyez.
Chasse à cour et golf.
Chasse à cour, mais c'est très complémentaire, parce que la chasse à cour c'est l'hiver et le golf c'est plutôt l'été.
Et votre golf, c'est où?
Le golf, je fais partie d'une association qui s'appelle les Seigneurs d'Âme de France. Mm-hmm. Donc je fais partie d'un petit golf qui est le golf de Trousse-Chemise à l'île de Ré. C'est un petit 9 trous et c'est mon golf d'attache. Mais sinon, on peut aller jouer partout. C'est vrai que dans la région parisienne, on est très gâtés. Karine habite Saint-Jean-de-Luz. D'ailleurs, il y a beaucoup de Neuillais qui...
Oui, c'est un prolongement de Neuilly, Saint-Jean-de-Luz, non?
Exactement. Hein? C'est vrai?
Bon appétit.
Ah oui, tiens, c'est marrant, dans ma base, si j'y suis, maintenant ils font des sketchs. Pas du tout, c'est pas du tout un sketch. C'est un déjeuner avec une personne qui habite à Neuilly et notre reporter Guy Fanctil s'est fait inviter à déjeuner et on a déjà appris que le golf c'est plutôt l'été.
Voilà, l'entrée est partie.
D'accord, voilà.
On a enlevé la première assiette.
Chronologiquement. Moi, je n'étais pas en train de vous dire que Neuilly avait changé sans vraiment changer. C'est-à-dire qu'on a toujours été. Il y a toujours eu deux Neuilly, le vieux Neuilly et le Neuilly récent, par l'avenue qui s'appelle maintenant l'avenue Charles de Gaulle, et qui est autrefois l'avenue de Neuilly.
C'est l'autoroute qui part de la Porte Maillot, en fait.
Exactement, c'est la N13, je crois. Mais je crois que c'est une des plus grosses sorties de Paris maintenant. Alors, évidemment, c'est gênant au point de vue pollution, au point de vue circulation, et ne serait-ce que pour coordonner le passage entre les deux Neuilly. Ça n'a l'air de rien, mais nos cimetières sont de l'autre côté. Enfin, c'est des détails idiots, hein, mais... Ben, le Neuilly d'ici, c'était le vieux Neuilly, où il y avait des maisons, des familles, des immeubles anciens, des immeubles haussmanniens, puis avec ce qui n'était que des hôtels particuliers autrefois, et qui malheureusement ont été démolis. Quoique, merci Monsieur Sarkozy. On ne peut plus démolir d'hôtels particuliers à Neuilly maintenant. Ils sont indestructibles.
Grâce à Monsieur Sarkozy.
Oui, voilà, parce qu'on s'est aperçu que finalement des barres d'immeubles c'était très bien, mais il fallait quand même avoir un peu d'air, des jardins, de la lumière, etc. Donc.
Et du prestige, j'imagine.
Oui, du prestige. Oui, c'est ça. Mais là, ça a toujours été. Il y a encore des gens qui sont là depuis toujours. Enfin, moi, je suis pas la seule. Hein.
Vous, c'est quoi? Vous, c'est combien de temps votre histoire avec Neuilly?
Je suis née ici. Moi, j'allais jouer là. C'était la campagne complètement. L'île de la Jatte, c'était fantastique. Il y a encore une dizaine d'années, il y avait encore des poules, des canards. Et...
Ah bon?
Oui, bien sûr. Maintenant, ils ont construit des petits immeubles sur le bord de l'eau. Je ne sais... Oui, il y a une partie qui est Neuilly et une partie qui est Levallois. Et Sarkozy habite juste à la limite, il est encore sur Neuilly.
Il ne s'est pas expatrié encore, même s'il n'est plus là, en fait, maintenant.
Il est encore sur la liste municipale, mais...
Il est adjoint hors cadre.
Oui, c'est ça, il est encore... Puis il reviendra, il a toujours un siège, j'imagine, à la mairie. Mais ce qui nous vaut des drôles de trucs, parce que dès qu'il y a un problème au ministère de l'Intérieur, on s'est dit, oh là là, ils vont confondre, ils vont venir à Neuilly, on a des CRS partout. L'autre jour, on a le DAL, qui est venu faire les droits au logement, qui est arrivé ici quand il y a eu cet incendie... rue du Bois Doré et puis rue de Charenton, ils sont tous venus ici. Pourquoi on se le demande?
C'est quoi les immeubles?
Oui, c'est ça, qui ont brûlé. Alors ils sont venus réclamer ici, mais enfin malheureusement il n'est plus là. Enfin on a comme ça des événements absolument extraordinaires. On a quand même beaucoup aussi dans un autre domaine des acteurs de cinéma. Alors il y a des mariages extraordinaires. On a eu Barclay qui s'est marié 9 fois, on a eu Mimi Mati qui s'est marié il y a pas longtemps, Johnny Hallyday, n'en parlons pas. On a quand même des événements assez drôles. Voilà.
Comment ça a été perçu, le droit au logement? Parce qu'ils sont un peu hirsutes, quand même, ceux-là.
C'était des Noirs, des familles de Noirs. Les Noirs sont toujours très élégants, ils sont pas virulents, ils sont calmes. Non, ça s'est bien passé. Moi, ça arrive souvent.
Ah bon?
Oui, ça arrive souvent. Parce que comme c'est l'ancien fief du ministre de l'Intérieur, ils doivent penser qu'il est là et qu'il peut faire quelque chose. Alors ils viennent, ils manifestent, ont des banderoles, des micros, ils plantent des tentes, ils pique-niquent, puis voilà, ils repartent. On va peut-être avaler ça. Et puis on continue.
C'est quoi, c'est là? Délicieux.
C'est des gambas aux trois champignons, avec du riz. Voilà, c'est tout.
C'est tout. Voilà. Bon appétit. Merci. Les deux Jack Russell. Ah non, il y en a trois là. Trois petits chiens qui sont là. Mmh. En train de mendier un bout de chocolat ou une sucrerie.
Mal élevés. Ces chiens sont mal élevés.
Comment on peut vous présenter, Madame Dumont? Comment on peut faire votre portrait?
J'en sais rien. Neuillienne de souche. Hein. Bourgeoise de souche.
Bon, que faisaient vos parents?
Papa était assureur, était président d'une compagnie d'assurance et maman était à la maison, nous a élevés. Bon, c'était des gens comme tous les Neuilliens, des gens BCBG.
Avec un grand appartement?
Non, avec une maison.
Ah oui,
c'est cette fameuse maison. Et puis nous vivions comme ça. Mes parents recevaient beaucoup. Et j'ai eu une vie vraiment très agréable, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis toujours là et j'espère y rester jusqu'à la fin de mes jours.
Vous avez travaillé?
Non. J'ai fait des études, mais je me suis mariée le jour des examens de mon école.
Je prends un autre chocolat pendant que vous parlez.
C'est pour ça. Mais en plus, j'ai élevé mes enfants. J'avais un mari qui voyageait beaucoup.
Qu'est-ce qu'il faisait?
Bah, c'était Bernard Dumont, qui était PDG de Saint-Louis. Enfin, il a fait une petite carrière. Il aurait peut-être fait des choses merveilleuses, mais il n'a pas eu le temps.
Saint-Louis, aujourd'hui, c'est le sucre.
Oui, c'est ça. Mais c'était le sucre. Mais ça, bon, sa carrière s'est arrêtée dans l'accident d'avion du Bourget du 20 janvier 95. Mais en fait, j'ai été assez occupée avec mes parents vieillissants, avec deux enfants élevés. Vous me direz qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais je n'avais pas vraiment besoin de travailler non plus, donc je n'ai pas travaillé. Et voilà, ça occupe. Quand il faut gérer tout ça, vendre, distribuer.
Les affaires d'héritage aussi.
Bien sûr, non, mais c'est vraiment une occupation à plein temps. De gérer tout ça, ce n'est pas évident. Hein.
Vous avez vu l'évolution de Neuilly?
Ah oui, tout à fait. Ça a changé, pas changé. Mais heureusement, maintenant, les quelques hôtels particuliers qui restent sont protégés. Ils ont construit des immeubles qui sont pas trop mal. Il y a encore de la verdure, il y a encore des écoles, des églises. Enfin, c'est quand même une qualité de vie assez extraordinaire. Il y a des chats, des chiens, des enfants.
Pas beaucoup de pauvres. Il y a le chien qui monte sur l'épaule, là, pendant ce temps-là.
Non, on en a eu quelques-uns qui étaient très, très connus à l'époque. Enfin, ils sont plus les mêmes. Maintenant, ce sont des gens qu'on nous débarque en Mercedes le matin avec un McDo et vous savez, qui sont à genoux sur un coussin avec un carton. Veux 3 francs pour vivre, j'ai pas de maison. Autrefois, nous avions nos clochards. Nous avions Alfred, qui habitait, je sais pas où, enfin, je sais pas très bien où, mais enfin, qui était aimé, habillé, nourri par les gens du quartier, qui promenait sa poussette. C'était un personnage. Après, on en a eu un autre qui, malheureusement, a été un jour, arrosé d'essence et je ne sais plus de son nom, il habitait sous l'église du duc d'Orléans, c'est place des Ternes. Il avait 2 chiens et un jour, ses copains l'ont arrosé d'essence et ont mis le feu, voilà. Il était très gentil, je ne sais plus de son nom d'ailleurs. Enfin, il y avait des personnages comme ça, mais comme il y en a eu toujours, comme il y avait autrefois. Nous avions pas très loin d'ici d'ailleurs, c'était drôle, la maison des vieux de Nanterre. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Il y avait une maison pour les personnes seules. On appelait ça la maison des petits vieux, à Nanterre. Il y en avait, je sais pas, une centaine. Ils étaient tous habillés pareil. C'est pour ça que ça, je pense, a été supprimé, parce que c'était mal perçu. Mais ces gens-là n'étaient pas seuls, étaient pris en charge. Et alors, ils venaient dans Neuilly, ils venaient partout, j'imagine, pour mendier. Enfin, c'est pas vraiment mendier. Ils avaient leur vie. Puis, de temps en temps, ils allaient faire un stage là-bas. On les lavait, on s'en occupait. Puis, ils revenaient avec leurs poussettes, leurs trucs. Ils réintégraient les bancs publics, etc. C'était des personnages qu'on connaissait bien. C'est drôle. Il y en a plus, hein. Mais c'est pire maintenant, je crois. Parce que ceux qu'on voit sont vraiment des épaves, des gens qui venus d'ailleurs, qui sont pas forcément, c'est pas la même chose. On n'a plus nos clochards. C'est horrible de dire ça, mais c'est un peu vrai. C'est.
Tu t'es servi, Karine?
Moi aussi. Vous allez vous resservir parce que vous êtes tout froid.
Non, moi, c'est bien.
merci à tous. C'était un reportage de Guy Vanctine. Merci à Madame Dumont et à Monique et Michel Pinson-Charlot, nos amis sociologues. Leur dernier bouquin, c'est Château et Châtelain, aux éditions Anne Carrière. Mais ils ont toute une œuvre absolument considérable dans ce domaine. Par exemple, Les Grandes Fortunes, chez Payot. Et puis un livre où ils dévoilent leur technique de sociologue, qui s'appelle Voyage en grande bourgeoisie, où ils parlent évidemment de cette grande bourgeoisie dont nous essayons aussi de parler. Mais ils disent aussi comment ils procèdent, comment, travaillent des sociologues. Enfin, comment ces sociologues travaillent. Concernant les repères de la Basse et J'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui Alain Arnstam et Christophe Papon. Antoine Chao et Yann Chouquet ont réalisé cette émission assistée de Pascal Le Pascariello. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. On la laisse finir.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.